Intéressant le passage qui a été lu ce matin, c'est que Dieu dit en réalité que quand il envoie une parole, sa parole fait toujours de l'effet et elle revient à lui. C'est comme si Dieu veillait à ce qu'il y ait un retour, l'effet boomerang de la parole de Dieu, en gros, c'est ça. Mais est-ce qu'on le vit vraiment? Je sais pas, je vous pose la question, hein. Est-ce qu'on est sûr que quand Dieu nous envoie une parole, la parole revient à lui par des effets dans nos propres vies? Ça, c'est loin d'être sûr. Vous savez pourquoi? Je vais vous faire une confidence. C'est parce que souvent, nous connaissons Dieu imparfaitement. Et l'image que nous avons de lui et de son amour est souvent une image qui est tronquée, filtrée. Jeudi soir, nous avons fait le bibliogroupe à la maison, et à partir d'une vidéo, on a essayé de définir l'amour de Dieu. C'était vachement intéressant, enfin j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai remarqué en tout cas, et ce qui est ressorti de notre discussion après le visionnage de cette vidéo, c'est que nous regardons l'amour de Dieu, nous avons une image de l'amour de Dieu qui est une image qui est filtrée par plusieurs choses. Parfois, il y a le filtre de notre éducation, le filtre des relations qu'on a eues avec notre père ou notre mère, le filtre de nos expériences positives ou négatives. Et si je vous avais regardé ce matin, parce que je n'ai pas osé le faire, je suis tellement timide, vous avez l'air de douter de ma timidité. Bon. Mais si je vous avais regardé ce matin, et si j'avais décortiqué un peu l'expression de votre foi, de votre amour, de votre louange, j'aurais pu presque discerner les filtres, qu'il y avait des filtres ou pas. Vous comprenez ça? Ce matin, par exemple, il y a peut-être le filtre de la tristesse en moi qui m'empêche vraiment de recevoir, de connaître l'amour de Dieu. Il y a peut-être le filtre du rejet, parce que peut-être que j'étais rejeté par mes parents. Et que forcément, comment Dieu qui est un père peut être un meilleur père que le mien? Peut-être qu'il y a le filtre des violences vécues, des paroles qu'on m'a dites. Vous voyez, il y a plein de filtres comme ça. Et le but de cette prédication, en tout cas de la prochaine, de la suivante, peut-être deux ou trois, je ne sais pas, ce sera vraiment de faire sauter des filtres. Parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est que si j'avais et si nous avions une image de l'amour de Dieu qui était réellement celle qu'elle est, on s'aillerait beaucoup mieux dans notre vie. Mais vraiment. Et les pasteurs auraient moins de boulot. Et comme je suis un peu fainéant, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant qu'ils aient un peu plus de connaissance de l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens et il dit en Éphésiens, je prie et je fléchis le genou devant le Père afin qu'il... Alors peut-être qu'il était fainéant comme moi, Paul. Je prie afin que le Père céleste vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il vous donne de connaître la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous donne de connaître l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. Je pense que c'est une clé dans nos vies. Parce que quand on comprend l'amour du Père, toute chose pâlisse à sa lumière. Et vous savez qu'on a perdu un ami cette semaine, enfin moi j'ai perdu un ami qui s'appelait Jacques. Et ce que je sais de Jacques, c'est que l'homme qu'il était il y a 3 ans avant sa maladie et l'homme qu'il est devenu n'est autre que quelqu'un qui a, à la fin de sa vie, connu l'amour du Père. À tel point qu'il m'a dit et qu'il nous a dit à ceux qui le visitaient, j'ai abandonné le chemin et la voie de la colère pour rejoindre le chemin du pardon. Et je lui ai même dit le dimanche qui a précédé sa mort, je lui ai dit, Jacques, tu sais que nous prions pour toi. Il dit, tu sais, c'est bien, mais j'en suis à un point où je ne prie même plus pour moi, je prie et je demande une plus grande révélation de l'amour du Père. Qu'est-ce que c'était beau de voir un homme mourir comme ça. C'était vraiment touchant. Donc le but de cette prédication, c'est de vous faire, de vous amener à comprendre que le travail que nous avons à faire, c'est de connaître l'amour du Père. Et je sais que ça m'a posé pas mal de soucis, moi. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai toujours dit, moi, je suis le fruit d'un adultère, en réalité. Et longtemps, j'ai eu des difficultés de comprendre qui était véritablement Dieu, mon Père. Parce que ça a tellement impacté ma vie. J'ai appris ça à l'âge de 10 ans. Ça a tellement impacté ma vie que ça a bouleversé mes comportements d'adolescent, mes comportements d'homme, de mari, au début de notre vie chrétienne, enfin avant notre vie chrétienne. Et il a fallu que je rencontre le Père tel qu'il était pour que ça puisse changer dans ma vie. En réalité, les gens autour de vous et vous-même, vous avez besoin de connaître l'amour de Dieu et l'amour du Père. Alors, il y a plusieurs manières de comprendre et de saisir l'amour du Père. Et l'une des choses qu'on peut... Tu peux mettre ? L'une des choses que l'on peut comprendre, c'est que quand Dieu donne une parole dans notre vie, quand il amène une promesse sur notre vie, c'est qu'il fait tout pour qu'un jour cette promesse s'accomplisse. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous savez, qui vous prennent dans les bras, qui vous disent... Je t'aime. Et puis le jour où vous êtes dans la mouise, ces gens, vous cherchez après eux, ils ne sont pas là. Dieu n'est pas un homme. Il n'aime pas comme nous, nous aimons. Quand Dieu dit « je t'aime », il te donnera tout. Et il te montrera qu'il t'aime. Et beaucoup de personnes, parfois, regardent Dieu avec ce filtre-là. Ils ont été déçus dans leur propre vie parce que les gens ne les ont pas aimés comme il aurait fallu qu'ils les aiment. Et donc, du coup, vous avez été mal aimé comme Clo-Clo. Mal aimé, je suis les mal aimés. Vous êtes mal aimé et donc, aujourd'hui, vous pensez que Dieu vous aime mal. Et là, je voudrais vous donner ce matin, non pas mes preuves, mais la preuve de ce que dit la Bible en ce qui concerne l'amour de Dieu. Et l'héritage de Dieu prouve preuve de son amour pour nous. Alors, on va voir en Genèse chapitre 48 que, vous savez, alors je vous raconte un peu l'histoire, hein, Joseph, il a été, il s'est retrouvé en Égypte à un moment donné, depuis sa plus tendre enfance. Et puis Dieu a accompli sa promesse envers lui. D'ailleurs, on pourrait faire un message là-dessus parce que Dieu a prouvé son amour envers Joseph. Et puis Joseph devient il est premier ministre en Égypte. Il a beaucoup de pouvoir. Et un beau jour, ses frères qui l'avaient trahi reviennent vers lui et il fait revenir son père Jacob en Égypte. Et là, la scène se situe en Égypte. Et Joseph, il apprend que son père est malade. Il est vieux, Jacob, hein, beaucoup plus vieux que moi. Et il a aussi perdu la vue, Jacob. Donc il a une perte de sensibilité visuelle. Et Joseph, il dit, ah, c'est important que j'aille voir mon père parce qu'à l'époque, la bénédiction d'un père était importante. Et il savait... Et Joseph connaissait les promesses qui avaient été données à son père Jacob. Dieu lui avait dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une assemblée de peuples. Je donnerai ce pays, Canaan, la Israël aujourd'hui, à ta descendance après toi, comme propriété perpétuelle. Maintenant, tes fils seront miens. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et Jacob est en train de rappeler cette promesse, mais en fait, il est en train de transmettre cette promesse à Joseph et à ses fils. Parce qu'il dit, la bénédiction qui était sur ma vie, elle est sur toi et elle sera sur tes fils. C'est puissant ce qu'il est en train de dire. Et Jacob les fait avancer. Il dit, fais avancer tes fils. Et il veut les bénir. Et Geoffrey, il y a quelques temps, enfin je ne sais plus, il y a quelques mois, nous avait parlé de la bénédiction. Vous vous souvenez ? Et en fait, je pense même qu'il avait abordé ce sujet-là en disant qu'en bénir, en hébreu, c'est barak. Et c'est pas juste, allez, je te bénis, hein. Je te bénis, poulette. C'est pas ça. Bénir, en hébreu, ici, dans ce cas présent, c'est s'agenouiller et c'est mettre un dépôt. C'est-à-dire qu'il est allé chercher l'héritage divin, Jacob. Il est allé le prendre et le déposer sur les fils de Joseph. Tout ce que Dieu lui donnait, il l'a pris, il le pose sur sa vie et sur la vie de ses fils. Cet acte est un acte grave, sérieux, puissant. Et quand vous bénissez quelqu'un, et quand Dieu bénit votre vie, quand Dieu veut vous bénir, il met toujours quelque chose sur vous. C'est un dépôt sur votre vie. C'est quelque chose de fort. C'est comme quelque chose qu'il a là, dans ses tripes, sur son cœur, qu'il prend et qu'il dépose sur vos vies. C'est ça, bénir. C'est comme ça que le Père veut vous bénir. C'est pas juste, sois béni. Sois béni. Non, c'est pas ça. C'est voilà, je te prends. Je prends tout ce que j'ai, je te le donne, fils. Je prends tout ce que j'ai, je te donne, fille. Voilà mon héritage. Et l'héritage divin descend du ciel. Il passe par tous les patriarches, Abraham, etc. Il arrive jusque Jacob. Et Jacob, il a un problème. Il a beaucoup procréé, Jacob. Et il va déposer une bénédiction sur chacun de ses fils. Combien la bénédiction est importante dans la vie d'une personne. Combien c'est important parce que je n'ai pas eu la bénédiction de mon père. Et combien c'est important qu'à un moment, je sache que mon père, mon vrai Père céleste, il a une bénédiction pour moi. La bénédiction de Jacob pour Éphraïm et Manassé. Alors Jacob voulait transmettre ce qu'il avait reçu de Dieu. Et la coutume à l'époque, c'est que l'aîné reçoive, allez, le meilleur héritage, vous voyez ? C'est comme les rois de France, quoi. Hein ? L'aîné devenait roi. Et là, il se passe un truc bizarre. Vous imaginez, alors je vous ai mis une image, vous avez Jacob, là c'est le gant, enfin je ne sais pas s'il ressemblait à ça le pauvre, mais là il était vraiment très vieux, amaigri, et là il croise les bras. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Joseph dit, il y a Manassé l'aîné, et il y a Éphraïm le cadet. Et il dit, et la coutume à l'époque c'est qu'on bénisse de la main droite, la mémine droite. Et donc que fait-il ? Il amène Manassé face à la main droite. Et il amène Éphraïm face à la main gauche. C'est extraordinaire ce qu'il est en train. Enfin, je trouve ça beau, quoi. Et puis, que fait Jacob ? Il croise les bras. Et d'ailleurs, ça va surprendre un peu Joseph. Il dit, non, tu te trompes, papa. C'est pas le bon. Et c'est comme si Dieu était en train de faire quelque chose d'une manière prophétique. Éphraïm, qui devait recevoir une part petite. Éphraïm qui devait recevoir des petites choses. Éphraïm qui n'était pas forcément celui sur qui on aurait parié. Parce que souvent, les gens qui nous entourent n'auraient pas parié un copec sur notre vie. Souvent, nous paraissons et nous croyons que nous sommes insignifiants. Alors que là, Dieu prend ce qu'il y a de tout petit pour l'amener à ce qui est grand. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Et il pose la main sur lui. Il dit, il sera plus grand que son frère. Tiens, Dieu avait-il un plan pour Éphraïm ? Et Dieu a-t-il un plan pour ma vie ? Et Dieu a-t-il un plan pour ta vie ? Oui, il a un plan. Il veut amener la bénédiction qui vient d'Abraham sur ta propre vie, même si tu crois que tu n'y as pas droit. Et souvent, dans notre éducation, dans les filtres que nous avons de Dieu, nous croyons que nous n'avons pas droit à certaines choses. Et Dieu est en train de contrecarrer, là. Il est en train de changer le cours des choses. Et dit, toi, Éphraïm, tu crois que tu n'as le droit à rien. toi, Bruno, tu crois que tu n'as droit à rien. Eh bien, moi, je te dis que je vais te bénir parce que j'ai un projet pour ta vie. C'est cela, l'amour du Père. Dieu avait-il un plan pour Éphraïm ? Alors, Éphraïm avait des qualités. D'abord, Jacob le déclare, il dit, tu seras fertile. Il y aura de grandes bénédictions sur ta vie. Je vais te consacrer, tu seras un homme consacré. Et Éphraïm en plus, la tribu d'Éphraïm, c'était des habiles archers. On en parle dans plusieurs passages de la Bible, et notamment les gars, ils recevaient des flèches et ils étaient plus forts que les flèches d'en face. C'était l'artillerie d'Israël, si je puis dire. Dieu avait prévu que cette tribu, que cet homme soit le père d'un grand nombre d'archers. Et l'artillerie, moi je la compare à la prière, à l'intercession. Vous savez, quand on prie, on balance des boulets comme ça contre nos ennemis. C'est comme ça que je vois la prière, l'intercession, le combat spirituel. Donc, il avait des qualités, Éphraïm, qui étaient des belles qualités, je trouve. Non ? Et le problème, c'est qu'on n'est pas tout le temps conscient des qualités que Dieu nous a données. Et puis, en plus, à Éphraïm, là, j'ai mis une petite flèche. Ça, c'est Éphraïm, vous voyez, en jaune, là. Et puis, à côté, vous voyez que Éphraïm était placé quand même d'une manière assez particulière. C'était au centre du pays. Et dans ce territoire d'Éphraïm, il y avait un lieu où Dieu a résidé. C'est à Shiloh, ou Silo, selon notre prononciation. Et Dieu allait y résider. C'est-à-dire qu'il avait choisi Éphraïm pour y demeurer. Et c'était là aussi où il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui contenait les pierres, les pierres, les tables de la loi, ce que Dieu avait tracé. Au centre même de au cœur même d'Éphraïm, il y avait la parole de Dieu qui régnait et il y avait le lieu où Dieu résidait. Le nom de Silo peut signifier aussi lieu où l'on demande des oracles. C'était un lieu où Dieu parlait. C'était pas juste des pierres mortes, des tables mortes. C'était un lieu où Dieu parlait, un lieu prophétique, un lieu où Dieu libérait sa parole. C'est un lieu de proclamation de la Bible, de la parole de Dieu. C'est un lieu où Dieu manifestait sa présence. Voilà ce que Dieu avait prévu pour Éphraïm. Quel héritage ! Ce petit bonhomme qui ne devait rien recevoir devient le centre même de là où Dieu manifeste sa présence et sa parole. Et tu es comme Éphraïm. Nous sommes Éphraïm. Nous sommes ceux que nous devons... j'ai pas fait l'exercice. Nous devrions normalement recevoir toutes ces choses et nous ne les possédons pas toujours. Vas-y, continue Jean-Luc, s'il te plaît. Et dans cette ville, c'était un lieu principal de gouvernement, un lieu de ministère et d'appel de grands serviteurs. Samuel a été appelé à Silo. Vous voyez, Éphraïm, qui n'était rien, était destiné à devenir quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Au départ, nous aussi, nous sommes appelés à être comme Silo. En Éphraïm, parce qu'il est écrit « Je mettrai mon esprit en eux, je manifesterai ma puissance, j'écrirai ma loi sur les tables de leur cœur. Toi, moi, nous sommes appelés à être Éphraïm. » Seulement, il y a un problème. Le problème, c'est le péché dans nos vies, c'est notre désobéissance. Le problème d'Éphraïm, c'est qu'il était orgueilleux. Éphraïm a commencé à s'enorgueillir. Éphraïm a commencé à rentrer dans le matérialisme. Alors que cet homme avait un appel, cette nation, cette tribu avait un appel puissant, il est rentré dans le péché, il est rentré dans la rébellion, il a dit « moi, je sais faire les choses moi-même ». Et combien d'entre nous, nous fonctionnons comme ça, nous pensons « oh, mais Dieu n'a pas besoin de me conseiller » ou « Dieu, je ferai ce que j'ai envie et comme j'ai envie ». En fait, Éphraïm, qui au départ devait avoir une mentalité du royaume de Dieu, est rentré dans une mentalité mondaine. Et quelqu'un qui est devenu comme opposé à la volonté de Dieu. Et tout ça, ça va amener toute cette tribu, toute cette nation d'Éphraïm vers une véritable désobéissance, vers une idolâtrie. Et chose terrible, ils vont même ouvrir les portes de leur ville à leurs ennemis. Et combien d'entre nous avons-nous ouvert des portes à nos ennemis ? Le Seigneur, dans sa patience et dans son amour, j'ai aimé parce que quelqu'un a dit jeudi soir que Dieu a prévenu. Jamais, vous savez, et ça m'est arrivé en tant que père, hein, des fois, j'étais tellement fatigué après, quand je travaillais de nuit, que mes enfants avaient atterré de filet droit, ils prenaient des coups de pied au derrière. Hein. Je prévenais pas. Mais mon Père céleste, aujourd'hui, il ne fonctionne pas comme ça. Il prévient. Et combien d'entre nous avons été brisés par la violence de quelqu'un ? On n'avait pas le temps de dire ouf, on se prenait une tarniole sur le nez ou un coup de pied au derrière, on ne savait pas d'où ça venait, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, on pense que Dieu est comme ça. Et Dieu va les prévenir, mais ce peuple ne va même pas écouter. Et ce peuple ne va même pas se repentir, c'est-à-dire changer de manière de penser. Conséquence. Eh bien, Dieu dit, puisqu'ils font comme ça, je les aime, mais qu'ils fassent ce qu'ils ont envie. Et ce peuple va être envahi par des peuples étrangers. Et chose terrible, chose incroyable, l'arche, le lieu où Dieu devait résider, va devenir un lieu désert. L'arche va être enlevée. La gloire de Dieu va être enlevée. Ce qui devait être un lieu où Dieu allait résider, parler, manifester sa gloire, ça va devenir un lieu désert, désertique. Ça va être un désert spirituel. Et même le peuple de Samarie va continuer à croire que Dieu... Vous savez, ça, c'est le système religieux. Hein. On croit que... Nous, les évangéliques issus du protestantisme, on a fait la réforme. Enfin, la réforme a eu lieu il y a 5 siècles à peu près, et on pense qu'on n'a plus besoin d'être réformé. Hein. Non, mais c'est ça, l'orgueil. Et on est en train de dire, nous possédons la vérité. Bien sûr, on est les meilleurs. Et ce peuple va continuer à dire... Il faut continuer d'adorer en Samarie, c'est là où Dieu se tient, alors que Dieu s'était... Permettez-moi l'expression barrée depuis longtemps. Quel aveuglement. Et ça, c'est un constat. Vas-y. Dieu avait donné un très bel héritage à Éphraïm, au fils de Joseph. Mais ses descendants, pardonnez-moi les fautes, je n'ai pas su changer mes fautes tout à l'heure. Donc, vous me pardonnez les fautes ? J'ai votre absolution, oui. C'est parfait. Ils ont négligé l'acte de bénédiction de Jacob. Et vous savez, tous autant que nous sommes, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde afin que nous devenions conformes au Christ, que nous devenions frères de Jésus, que nous devenions vraiment des fils du royaume de Dieu. Et nous aussi, on néglige notre bénédiction initiale. Comme Éphraïm, nous sommes souvent enclins à nous rebeller contre Dieu. Oh, peut-être pas vous, hein. Oh, je ne sais pas, vous êtes parfait, je vous vois là. Je n'ai pas mis mes lunettes. Mais par orgueil, nous faisons ce qui nous semble bon et bien en négligeant les conseils de Dieu. Combien de personnes, aujourd'hui, parce que moi je parle souvent du Seigneur à mes collègues de travail, enfin je parlais souvent, et combien de personnes, ce qui leur fait peur, vous savez ce qui... Je pourrais plus faire ce que je veux. Mais où est-ce qu'il est écrit ça dans la Bible ? Il est simplement écrit que c'est parce que j'ai une relation d'amour que je ne ferai pas ce que je veux. C'est comme si j'aimais... Moi, j'aime ma femme, mais c'est comme si que je continue à faire ce que je veux. Bah tiens, je vais faire ce que je veux aller voir d'autres femmes. Mais je suis fidèle à mon épouse, non pas parce qu'il faut être fidèle. Non pas parce que il me faut absolument faire ce que Dieu me demande. Je suis fidèle parce que je l'aime. Voyez là, la différence de comportement. Méritons-nous toujours notre héritage? Je vous le demande. Et beaucoup de pères auraient déshérité de tels fils. Pas vous? Non? Et pourtant, lui, Dieu, que fait-il? Vous allez voir, il fait de belles choses. Dieu conserve son amour et ses promesses envers nous. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu. Et ça, c'est dans l'époque du prophète Jérémie. Samarie a été envahie par les peuples étrangers. Il ne reste plus rien. C'est le désert spirituel. Et voyez ce que Dieu dit. Vas-y, fais défiler. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront... Non, pas trop vite, Jean-Luc. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Et souvent, notre rébellion, notre désobéissance nous amène à être dans un désert. Nous sommes secs. Il n'y a plus rien qui pousse. Les gens font croire, ils achètent des plantes, vous savez, artificielles. Il n'y en a pas ici, ici. Il y en a pas. Ça, c'est une artificielle. Je ne vais pas insulter ma belle-mère en disant que celles-là sont artificielles. Je vais le faire hospéter. Mais souvent, les gens sont dans un désert. Et le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Regardez ce que Dieu fait devant un peuple qui est dans un désert, devant un peuple qui est face à la destruction. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Waouh ! Vous imaginez Éphraïm entendre ça ? Il a désobéi. Il pense qu'il a perdu son héritage. Il est dans la destruction. Il est le dénuement le plus complet. Et il entend quelqu'un dire « Je t'aime d'un amour éternel. » C'est pourquoi je te conserve ma bonté, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Tiens, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. L'effet de l'amour de Dieu, de la restauration qui vient par l'amour du Père, c'est une restauration avec des fruits dans nos vies. Ce jour-là vient où les gardes crieront sur les montagnes d'Éphraïm, « Levez-vous et montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. » Dieu conserve son amour et ses promesses envers nous. C'est-à-dire que tous autant que nous sommes, alors que nous étions encore dans le sein de maman, Dieu avait proclamé un héritage sur notre vie. Je le crois fermement. C'est-à-dire qu'un jour, il a vu Bruno, et puis j'imagine ma mère qui était en train de dire « Ce qu'il y a là dans mon ventre, c'est pas forcément bien. » J'espère qu'elle culpabilisait un petit peu. Et déjà à l'époque, où, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Père, mon Père Céleste, était en train de dire, lui, un jour, en décembre 2019, j'allais dire 2020, 2019, ce gars-là, il sera pasteur dans une église et il proclamera que je suis un bon père. Quel amour ! Non ? Bon, tant pis, je pensais vous convaincre. Alors que nous pouvons penser ou croire que tout est fichu, Dieu nous conserve son amour et l'accomplissement de ses promesses. Alors, vous allez me dire, tout a été perdu. Et là, maintenant, je vais vous renvoyer quelques siècles plus tard. Un beau jour, Jésus est en Judée, donc au sud. Vas-y, fais avancer. Voilà. Il est au sud. Et il doit passer en Galilée, au nord. D'ailleurs, on voit un peu plus haut la mer de Galilée. D'accord ? Et il doit passer par la Samarie. Et c'est pas qu'il doit passer pour y aller, c'est parce que le Père avait prévu qu'il vienne rétablir des choses que le peuple avait perdues. C'est extraordinaire. Et comme par hasard, il arrive près du champ de Jacob que Jacob avait donné à son propre fils, Joseph. Au même endroit, à l'endroit où ça a été fait, mais Jacob avait dit, à cet endroit-là, tu régneras, tu te poseras. Au même endroit, d'une manière prophétique, ce qui s'est fait 2000 ans avant, Dieu est en train de l'accomplir là, face à la Samaritaine. Et Jésus s'assied sur le puits, parce que je suis fatigué, franchement, j'en profite. Il s'assied et il voit une femme arriver. Il dit, femme, j'ai soif, donne-moi à boire. Bon, c'était pas, il n'y avait pas de distribution à l'époque, vous voyez ce que je veux dire. Donne-moi à boire. Mais elle dit, elle lui parle de cette eau. C'est le puits de Jacob, notre père. Et il dit, tu bois encore cette eau, femme. Si tu bois encore dans ce qui est l'imaginaire de cette promesse que le Père a fait, tu auras toujours soif. Mais moi, j'ai une autre eau à te donner, femme. Ben, il dit, mais donne-moi à boire de cette eau, que je vienne plus faire cette marche à pied et que je reçoive cette eau et que je ne me fatigue plus. Il dit, ben, cette eau, cette source, c'est moi. Et le Père qui a déclaré ça à Joseph des siècles avant, par la bouche de Jacob, le Père qui envoie cette parole et qui dit, voilà, cette promesse, elle est là, elle est en train de se réaliser ce jour-là. C'est le début du réaccomplissement de la promesse de Dieu pour Éphraïm. Et là, Jésus, à l'endroit même où ça devait être un lieu prophétique, Jésus commence à prophétiser. Il lui dit, va chercher ton mari. Il a dit, ben, j'ai pas un mari. Il lui dit, c'est vrai, il dit, tu n'as pas de mari. Celui avec qui tu vis, t'es pas marié avec. Et puis, il va encore lui dire, mais en plus, t'as eu autant de maris avant. La femme, elle dit, et puis il commence à lui parler de certaines choses concernant le royaume de Dieu. Mais il dit, je vois que tu es prophète. C'est-à-dire que des siècles après, où l'héritage a été enlevé à Éphraïm et rétabli, Jésus vient rétablir la promesse de Jacob. Et le lieu qui est là devient de nouveau Silo. Il devient de nouveau le lieu où les oracles de Dieu sont donnés. N'est-ce pas extraordinaire? Et un lieu qui était spirituellement, parce qu'ils continuaient d'adorer sur leur montagne. Ils allaient à la messe ou à l'église, ou je sais pas, ils faisaient leur petit culte tous les dimanches matins. Et disaient, Dieu est vraiment là, alors qu'il n'y était pas. Il restaure un lieu spirituellement en un lieu de réveil. Je vais vous lire le verset 19. Non, 39 et 42. Plusieurs Samaritains. Ouais, parce que la femme, elle est touchée par le Seigneur, là. Elle retourne dans son village, elle témoigne de ce que Jésus lui a dit. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Dis donc, c'est pas mal, hein? Et puis, 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Waouh ! Ce lieu qui était mort, ce lieu qui était désert spirituellement, Jésus revient et il va déposer sa parole vivante en eux. Et les gens qui seront là, certes, ils continueront à boire l'eau du puits, mais leur soif, leur véritable soif sera étanchée parce qu'il est la source de vie, parce qu'il est celui par qui l'Esprit est donné et les gens n'auront plus soif spirituellement. Il instaure à nouveau le lieu d'adoration ce n'est pas à Silo, dit-il. Ce n'est pas en Samarie. Ce n'est même pas à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, les vrais Éphraïm que nous sommes, adoreront le Père en esprit et en vérité. Autrement dit, lorsque Jésus rétablit la promesse, l'héritage d'Éphraïm à la Samaritaine, il est en train de nous dire « Je veux rétablir l'héritage que Jacob a donné dans ta propre vie. Je vais vous appeler Éphraïm dorénavant. » Parce que ça vaut le coup de s'appeler Éphraïm. Lorsque un homme, une femme, un peuple commence à dire « Ce n'est plus à cause de ce que je peux entendre parler de toi, des autres, Seigneur, que je crois. Mais j'ai découvert que tu es vraiment le sauveur du monde. C'est plus « Je vis ma foi » et ma connaissance de toi à travers les filtres ou à travers de ce que j'entends parler de toi, mais je sais que tu es mon sauveur. Je sais que tu es mon Dieu. Et là, la relation d'amour avec le Père est rétablie. Là, il y a eu plusieurs filtres qui sont tombés. Le filtre de la religion, la religiosité. Le filtre de la désobéissance, le filtre de la rébellion, le filtre, vous voyez, tous des filtres qui sont tombés le jour où Jésus a prêché, a annoncé le royaume de Dieu à cette femme et à ce peuple-là. Je pense que j'ai fini. Ça, c'est la plus belle preuve. L'une des plus belles preuves de l'amour de Dieu, c'est lorsque Dieu veille sur tout ce qu'il a dit sur moi et qu'il le fait et qu'il l'accomplit un jour. J'espère avoir fait sauter des verrous dans vos filtres et que ces filtres s'en aillent ce matin. Je voudrais prier pour vous. Et je voudrais faire... Alors, je ne me prends pas pour l'apôtre Paul, hein, d'accord ? L'apôtre Paul était beaucoup plus courageux que moi et persévérant. Mais je voudrais prier pour vous, pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, et qu'il vous donne de connaître l'amour du Père. Et dans ce même passage, il dit « Je prie le Père qu'il vous donne de comprendre, relisez le passage, je ne dis pas que des bêtises, de comprendre et de connaître. » Si tu as besoin de connaître l'amour de Dieu, ce n'est pas justement de comprendre. Comprendre, c'est bien. Le connaître, le vivre, c'est mieux. Et moi, Seigneur, je peux vous le dire, j'en ai marre d'uniquement comprendre. C'est bien de comprendre. Mais j'ai envie de connaître l'amour du Père. Et je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai déjà raconté, mais tant pis, je recommence. J'ai le droit, je suis vieux maintenant, on a le droit de radoter. Un beau jour, j'étais dans un temps de prière. C'était assez fort ce que j'avais vécu. J'avais dit, Seigneur, j'aimerais connaître davantage ton amour. Et puis alors, je crois que c'est la nuit qui a suivi. Et je vous promets que je n'avais rien fumé d'illicite et bu de choses. J'étais vraiment normal cette nuit-là. Il y a, je pense que c'était un ange qui est venu me chercher, il m'a dit « Laisse-toi faire ». Et il m'a pris dans ses bras et il m'a emmené dans toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Quand Paul dit « Hauteur, profondeur, largeur, longueur », j'ai fait un voyage avec lui. Et plus je voyageais, c'était rapide, c'était... On aurait dit buzz éclair dans Toy Story. Je voyageais comme ça. Et plus je voyageais, plus j'étais rempli de l'amour de Dieu. Et ça a duré quelques instants. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et l'ange est venu me redéposer. Et j'ai eu un grand regret. suis désolé. Parce que dans tout le temps où j'ai vécu ce voyage, j'ai fermé les yeux. Vous savez pourquoi ? J'ai eu peur de l'amour. Et je l'ai réalisé jeudi soir. Comme je regrette d'avoir fermé les yeux. Parce que même si j'ai été dans les dimensions, même si j'ai compris des choses ce jour-là, j'ai raté quelque chose dans le connaître. Et je crois que vous et moi, on a besoin de grandir dans le connaître de l'amour. Et je veux prier pour ça. Et je veux prier, Père. Je veux prier pour nous, je veux prier pour les personnes qui sont là présentes et celles qui vont regarder cette vidéo. Et je demande que tu donnes un esprit de sagesse et de révélation. Je demande que tu leur donnes de connaître, de comprendre et connaître l'amour du Père. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Et en Jésus, je vois que tu veux rétablir les choses comme tu l'as fait à Samarie en rencontrant cette femme. Pourtant, tout séparait cette femme de toi. Elle était samaritaine, tu étais juif. Et il est dit dans ce passage que les juifs et les samaritains n'avaient pas de contact. Et pourtant, tu étais lassé, tu étais fatigué, tu avais soif. Et tu allais au-delà de ces choses pour rétablir la relation avec toi. Alors je prie que tu bénisses. Ce matin, je veux déclarer l'héritage d'Éphraïm sur cette communauté, sur cette assemblée, sur les gens qui sont là, sur les gens qui écoutent ce message. Je prie, Père, que tu rétablisses et je proclame l'héritage d'Éphraïm maintenant. Que la vie de ces personnes redevienne un lieu où tu annonceras tes oracles. Que leur vie soit de nouveau un lieu où tu habiteras, où tu pourras écrire ta loi sur les tables de leur cœur. Que ce lieu soit un lieu où, que leur vie soit un lieu où tu manifesteras par ta présence, par ton esprit, Seigneur, ta gloire en eux. Je prie, Père. Je prie, je demande cela. Je prie pour qu'ils reçoivent cela dans leur compréhension et dans leur cœur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.